Ceci est le premier cours d'architecture des systèmes informatiques pour l'année 2006-2007. Nous allons commencer et ce commencement va être consacré à de quoi s'agit-il ? De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un cours sur quelque chose qui, je vais vous le dire de façon plus détaillée, n'est ni des mathématiques ni de la physique. Ce n'est pas des mathématiques parce que d'abord il n'y a pas d'axiomatique, il n'y a pas de démonstration, il n'y a pas de théorème. Ce n'est pas de la physique non plus, puisqu'il n'y a aucune observation que l'on puisse faire de la nature extérieure. Tout ce que l'on peut observer, ce sont des instruments fabriqués par l'homme et qui donc n'ont aucun caractère naturel. C'est de la technique, techné en grec. Dans toute la suite, il n'y aura donc ni démonstration, ni observation. Tout ce que nous pourrons faire, c'est détailler un certain nombre de choses qui ont été inventées, qui sont connues, qui sont appréciées et qui, selon l'état de la technique, ont plus ou moins d'utilité. Cette utilité sera mesurée en fonction des performances que l'on peut espérer de tel ou tel appareillage supplémentaire, enlevé ou ajouté, plutôt ajouté d'ailleurs qu'enlevé. Encore que parfois quand on ajoute des appareillages, ça diminue les performances. Ceci posé, on peut quand même se demander s'il n'y a pas une théorie, quand même si elle est relativement éloignée. Eh bien oui, il y en a. Il y a une théorie qui est née dans les années 30, plus spécialement à partir de 1935-36. Ces théories, on verra pourquoi plus tard, a été définie, a été créée, a été inventée, pour répondre à une question qui existait en traumatisante pour les mathématiciens, mais qu'ils se posaient quand même. Il se posait la question de qu'est-ce qu'une fonction calculable ? Oh, bien sûr, ça faisait longtemps qu'on savait qu'une fonction, on savait la calculer dans la mesure où, au bout d'un certain temps, même si ce temps était très très long, on arrivait au bout. Bon, effectivement, si vous essayez de multiplier un nombre de 5 chiffres par un nombre de 3 chiffres, vous arriverez au bout. Au bout d'un certain temps, si vous avez 250 chiffres en multiplicande et 370 chiffres en multiplicateur, ce sera nettement plus long, mais vous avez quand même la certitude d'arriver au bout. Si le nombre de chiffres est fini, vous savez que vous arriverez au bout. Je dirais même pour l'informaticien, même si on arrive au bout dans plusieurs siècles, ça n'a pas grande importance. Ça, c'est une définition intuitive, c'est une définition naïve. On dirait maintenant, une fonction est calculable quand il existe un algorithme dont chaque pas de calcul est fini et qui arrive au bout, c'est-à-dire au résultat attendu, avec un nombre fini d'étapes. Bon, ce serait une autre définition, mais elle serait tout aussi intuitive, ce n'est pas de la mathématique tout ça. Alors, pour répondre mathématiquement, il y a des gens qui se sont posé la question, et notamment un nommé Alan Turing. Alan Turing qui, pour établir ces choses-là, bon, c'était un petit peu plus compliqué, mais je simplifie, a défini une machine de principe. La machine de principe de Turing, oh, c'est une chose un peu, une machine papier un peu étrange. Bon, elle a un ruban, potentiellement infini au moins d'un côté. Elle a une tête avec laquelle on peut lire ou écrire un symbole dans une case du ruban, puisque le ruban est divisé en cases. Et il y a un tableau qui dit, bien, si on est dans tel état, et si on lit un symbole, il faut qu'il y ait bien sûr un jeu de symboles fini, tout est fini dans tout ça. Si on lit un symbole, et si on est dans un certain état, et bien on passe dans un autre état, et on fait quelque chose. On fait quelque chose et on passe dans un autre état. Faire quelque chose, c'est avancer d'un cran, reculer d'un cran, effacer ce qu'il y a dans la case ou écrire un autre symbole à la place. Bon, voilà, c'est une machine papier, vous la verrez. Vous avez même dans une annexe des simulateurs sous forme d'appliquettes, de machines de Turing pour faire un comptage et l'autre, c'est pour faire une addition. Alors, vous verrez comment on peut faire une addition avec une machine de Turing. C'est long, c'est très très long. Mais ça n'a pas d'importance, la durée importe peu, pourvu que la finitude soit garantie. Donc, le nommé Turing a défini une machine de papier, il l'a défini de façon formelle, et donc à partir de ce moment-là, on a eu une théorie disant, eh bien, une fonction est calculable, mathématiquement calculable, si et seulement si elle peut être calculée au moyen d'une machine de Turing au bout d'un temps fini. C'est-à-dire si elle peut être calculée, parce qu'elle était calculée. S'il fallait un temps infini, on ne pourrait plus dire qu'elle est calculable. Bon, la machine de Turing n'est pas la seule, il y en a eu beaucoup d'autres. Il y en a une notamment nettement antérieure, mais on n'a pas retenu celle-là parce qu'elle n'avait pas été publiée. Elle avait été définie par un nommé Émile Post, qui malheureusement avait la tête un peu tourneboulée, et qui faisait de trop fréquents séjours dans des hôpitaux psychiatriques. Vous me direz, c'est un peu le destin de ces hommes qui ont réfléchi à ces choses-là. C'est assez étrange, puisque Gödel est mort quasiment d'inanition. Gödel, c'est celui qui a inventé, qui a défini, qui a démontré plutôt que dans une axiomatique, il y a toujours au moins une proposition non démontrable. Post, mort fou, comme on pouvait s'y attendre. Turing, lui, s'est suicidé. Je dirais déjà au siècle dernier, Georges Cantor était mort fou lui aussi, c'est l'inventeur de la théorie, disons ça. Bon, ceci n'est pas réjouissant, mais enfin bref. Il y a eu d'autres inventions, d'autres systèmes inventés pour définir les fonctions calculables, et ce qui est assez extraordinaire, c'est que des systèmes provenant d'horizons totalement différents. La machine de Post et la machine de Turing se ressemblent étrangement, ça c'est pas une grande affaire, mais par exemple la machine de Klein ou celle de Church, ce sont des machines récursives, c'est-à-dire, bon, pour un informaticien on dirait une machine à piles. Ça définit également une classe des fonctions calculables, et on s'aperçoit que ce sont exactement les mêmes. Et puis il y en a eu d'autres. On a même défini les fonctions calculables à partir de chaînes de Markov. Vous verrez cela dans le livre. Maintenant, que faire de cette théorie? Directement, rien. Rien, ce qui explique que dans les années 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé qui soit une descendance de cette machine de Turing. Il s'est passé quelque chose en 1946. En 1946, un génie de ce temps-là, un nommé John, parce qu'il avait émigré aux États-Unis, von Neumann, puisque c'était un Autrichien d'origine, disons en français Monsieur de Neumann, a pris la théorie de Turing et en a tiré un certain nombre de spécifications, spécifications, c'est peut-être un bien grand mot, de prescriptions, disant en gros la chose suivante. Si vous voulez faire une machine physique, concrète, qui fasse ce que fait la machine de Turing, c'est-à-dire qui calcule toutes les fonctions calculables. Eh bien voilà comment il faut vous y prendre. Et pour cela, il a défini un certain nombre de prescriptions dans un article resté fameux dont vous avez les références dans le livre. Qu'est-ce qu'il dit grossièrement? Il dit qu'il faut un jeu d'opérateurs réalisant toutes les opérations de l'algèbre de Boole. Ça, c'était quelque chose qui était connu depuis 1938-39. C'était des travaux de, ça c'est le trou de mémoire, enfin le nombre va me revenir. Qu'est-ce qu'il faut ensuite? Il faut de la mémoire. il faut des choses nommées mémoire aujourd'hui, toutes de même taille, tous les éléments ayant la même taille, accessibles par leur repère, on dira aujourd'hui une adresse, etc., etc. Vous verrez dans le chapitre 2 la liste des prescriptions de Neumann qui dit, bien, si vous faites des choses, si vous faites tout comme ça, quelle que soit la technique employée, que ce soit de l'électricité, de l'électronique, si vous voulez de la mécanique pure, même une machine pneumatique, c'est-à-dire fonctionnant avec de l'air sous pression, vous ferez quelque chose qui réalisera toutes les fonctions calculables, sans vous dire bien entendu au bout de combien de temps vous aurez fini. On est toujours dans « c'est fini, mais on ne sait pas au bout de combien de temps ». Donc Neumann a défini un jeu de prescriptions disant pour réaliser une bonne machine de Turing, voilà comment il convient de s'y prendre. L'étape de Neumann est indispensable pour passer de la machine de Turing à nos ordinateurs. La machine de Turing n'aboutit pas directement aux ordinateurs. Un ordinateur est une machine qui satisfait, bon, plus ou moins, au moins, mais avec parfois des écarts à la machine de... aux prescriptions de Neumann pour réaliser une machine. Donc nous avons un enchaînement en trois pas. La machine de Turing qui réalise toutes les fonctions calculables. Les prescriptions de Neumann qui disent comment faire concrètement une machine de Turing, et les ordinateurs qui sont des machines de Neumann, plus ou moins respectant plus ou moins les prescriptions, on verra ultérieurement des écarts aux prescriptions de Neumann, et on verra d'ailleurs que chaque fois qu'on fait un écart aux prescriptions de Neumann, eh bien on se retrouve avec des ennuis, dans la mesure où la somme des ennuis est inférieure au gain espéré, effectivement, on va continuer, on va faire quelque chose qui s'écarte des prescriptions de Neumann. Une prescription de Neumann, en passant, c'est on attendra la fin de l'exécution d'une instruction pour commencer à exécuter la suivante. Bon, voilà. Une prescription parmi d'autres. Donc maintenant, ce que nous avons, c'est une théorie fondatrice qui est la théorie de Turing ou l'une quelconque des théories équivalentes à celle de Turing, que ce soit celle de Post, que ce soit celle de Church, de Kleene ou de Markov. Et nous avons nos ordinateurs. Alors vous me direz, mais on a une théorie pour les ordinateurs. Ben oui, on a une théorie pour les ordinateurs. Mais qu'est-ce qu'elle apporte, cette théorie ? Elle apporte que tout ordinateur qui satisfait les prescriptions de Neumann et qui donc est une machine de Turing est capable de réaliser la totalité des fonctions calculables. C'est une police d'assurance absolument extraordinaire. Vous n'avez pas ça dans le reste des objets techniques. Si vous fabriquez, même en respectant scrupuleusement, et d'ailleurs vous ne pouvez pas faire autrement, les équations de Maxwell, si vous fabriquez un moteur électrique, le moteur électrique aura une certaine puissance. Si vous fabriquez un moteur électrique pour entraîner une machine à laver, n'attendez pas que le même moteur électrique vous propulse un porte-avions à grande vitesse. Non, il y aura des limites. Ici, non, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, toute fonction, tout ordinateur, à condition qu'il satisfasse les conditions préalablement présentées, réalisera la totalité des fonctions calculables. Donc on a une police d'assurance pure, parfaite et définitive. Mais on a une contrepartie. On a une contrepartie qui est que... comment faire cet ordinateur ? Eh bien ça, on ne vous le dit pas. La théorie ne vous dit rien. La théorie, justement, vous dit précisément que tout ordinateur, quel qu'il soit, qui satisfait les prescriptions, etc., etc., réalise la totalité des fonctions calculables. Donc, pour la théorie, tous les ordinateurs sont strictement équivalents. Si deux objets sont équivalents, mathématiquement équivalents, la même théorie mathématique qui a produit l'équivalence ne vous donnera, ne peut pas vous donner un moyen de choisir entre les deux. Parce que si la même théorie vous donnait un moyen de choisir plutôt l'un que l'autre, ou plutôt l'autre que l'un, selon des critères internes à la théorie, alors ce ne serait plus deux machines équivalentes, ce ne serait plus deux êtres mathématiques équivalents. Donc la théorie s'arrête avec une police d'assurance extraordinaire, comme je le disais, mais une impossibilité définitive à partir de cette théorie de faire une machine plutôt qu'une autre. Toutes les machines sont équivalentes vis-à-vis de la théorie. Donc c'est en cela que je dis que la théorie est arrêtée. La théorie s'arrête. Elle vous fournit, on aurait dit au Moyen-Âge, l'œuf philosophal, c'est-à-dire la chose parfaite. Et puis c'est tout. Puis c'est tout, comment faire un ordinateur? Eh bien débrouillez-vous. Voilà où nous en sommes. Donc voilà ce que la théorie apporte. Et c'est pour cela qu'au tout début, je vous disais, oui, il y a une théorie. Mais finalement, du point de vue de l'architecture des systèmes informatiques, on n'en fera pas grand-chose. Ceci, on aura la police d'assurance. C'est tout. Alors vous me direz, mais est-ce que toutes les machines relèvent de la théorie? Non. Non, non, non. Toutes les machines que l'on a fabriquées pour faire des calculs ne relèvent pas de la théorie de Turing. Je donnerai un premier exemple qui est l'ensemble de toutes les machines dites analogiques qui ont existé, qui ont été utilisées jusqu'au début des années 70. Les machines analogiques n'étaient pas des machines de Neumann et ne relèvent donc pas de la théorie de la machine de Turing ou des machines équivalentes. C'était des machines analogiques, comme leur nom le disait, c'est-à-dire que l'on construisait une image électrique du phénomène que l'on voulait calculer, à coup d'équations dérivées partielles du côté mathématique, ou d'équations différentielles, et de l'autre côté, à coup de résistance, de rheostat et de condensateur. Il y a un autre jeu de machines qui ont eu et qui ont encore un certain succès. Ce sont les machines qui veulent imiter le fonctionnement du cerveau à base de neurones. Celles-ci non plus ne sont pas des machines de Neumann. Bon, il y a bien un petit raccord possible, une chose qui a été démontrée, vous verrez ça dans le livre, mais enfin, ça ne mène pas très loin pour faire un pont. C'est plutôt une petite passerelle extrêmement malaisée entre les machines neuronales et les ordinateurs. Donc voilà où nous en sommes, et en étant là, que faire? Eh bien maintenant, on va se débrouiller.